France Inter, le 18-20.
Allô, tu m'entends? Attends, bouge pas, je sors dans le jardin, j'ai pas de réseau. T'as reçu mon SMS? Non, j'en reçois qu'un sur deux. Vous vous reconnaissez peut-être, vous aussi, pour téléphoner de chez vous avec un portable, vous devez monter sur un tabouret. Vous pensiez que votre zone était couverte, elle est blanche ou peut-être grise. On vous avait pourtant promis que les opérateurs allaient travailler sur le réseau. Les résultats parfois se font attendre. Et vous avez vu cette semaine sur la carte publiée par l'ARCEP, l'autorité de régulation, que le territoire en réalité est vraiment couvert à 60%. Cette carte désormais, c'est un outil qui pointe le doigt sur les zones dans lesquelles peut-être un investissement s'impose. Fracture numérique, zone blanche, inégalité devant les accès. Quelles informations fiables sur les zones d'opérateurs? Quelles améliorations s'imposent aussi? C'est le thème du Téléphone Sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Sintès. Le Téléphone Sonne.
René, vous êtes le premier, j'espère que la ligne est bonne et on vous écoute.
C'est correct.
Correctement.
Mais je suis à Carcassonne, donc là, c'est mieux couvert.
D'accord.
Sinon, dans la Montagne Noire, c'est difficile d'avoir quelqu'un.
D'accord. Et vous habitez la Montagne Noire, donc, apparemment.
Voilà.
Et comment ça se passe pour vous?
On fait comme on peut. Des fois, on arrive à être joint, des fois, c'est pas possible. Des fois, on peut joindre, des fois, c'est pas possible.
Et alors, une question de votre part, René, peut-être?
J'avais deux questions,
allez-y,
si c'est possible.
Bien sûr.
La première, c'était...
Commencez par la deuxième.
Voilà, c'était pour savoir si la seconde, c'est pour savoir si ça va être résolu bientôt ou s'il va falloir attendre longtemps. Donc ça signifie payer des forfaits comme tout le monde, mais avec un service différent. Et ma première question, c'était pourquoi rien n'oblige les opérateurs à se mettre ensemble, puisque bon, c'est vrai que ça a des coûts, hein, mettre des antennes un petit peu partout, ça a des coûts. Pourquoi les opérateurs ne sont pas obligés de se mettre ensemble, donc de mutualiser les coûts, de façon à ce que le territoire soit mieux desservi?
Eh ben, on a entendu votre question, René. On a bien compris que vous habitiez donc autour de la Montagne Noire dans l'Aube et que c'était pas toujours facile. Et c'est intéressant d'ailleurs que depuis Carcassonne, où vous travaillez peut-être, ou en tout cas vous êtes là, les choses sont plus faciles. Donc il y a à la fois les endroits où on vit, les endroits où on travaille, les endroits où on circule et tout ça, c'est compliqué. Pour vous répondre, Pierre-Jean Bengozi, vous êtes membre du collège de l'ARCEP, le fameux régulateur des télécommunications. Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms. Olivier Guéraud, vous êtes juriste à l'association Consommation Logement et cadre de vie. Une réponse pour René, Pierre-Jean Bengozi, je vous pose la question à vous. D'abord, est-ce qu'on peut obliger les opérateurs à se mettre ensemble, à travailler ensemble pour qu'il y ait un pylône là où René souhaiterait pouvoir avoir une liaison, ce qui est bien normal?
Alors en fait, on a développé plusieurs mesures pour inciter les opérateurs, notamment sur ce qu'on appelle les zones blanches, les zones très peu couvertes, à ce qu'on appelle mutualiser, c'est-à-dire se mettre ensemble effectivement pour couvrir, puisqu'il y a des zones qui sont extrêmement...
Vous incitez, mais ils sont volontaires pour ça ou pas? C'est compliqué.
Oui, tout à fait. Ils étaient volontaires. Mmh. Donc il y a des engagements qui ont été pris, d'ailleurs sur à plusieurs niveaux. Hein. Aujourd'hui, ça représente à peu près 3000 sites en France. Alors on est tout à fait conscient que c'est des zones très très limitées. Hein. C'est 1% de la population simplement. C'est à peine 10% du territoire et ça représente à peu près 4000 communes. Donc on sait bien que c'est pas forcément l'idéal et que sans doute Carcassonne.
C'est bien ce qui est compliqué pour les maires, j'imagine, des petites communes. Vous savez ça mieux que moi, Olivier Guéraud, j'imagine. Quand on est une petite commune, on a l'impression que, bon, en même temps, c'est pas grave, il y a 450 habitants, c'est peut-être ça aussi.
J'irai pas jusqu'à là, mais effectivement, vous avez beaucoup de questions qui se passent dans le milieu rural. On leur supprime leur cabine téléphonique, il y a des zones où on capte pas.
Et puis, demande l'accès depuis longtemps et ça vient pas rapidement.
Ça vient pas. C'est l'importance, effectivement, de ce qui a été publié par l'ARCEP. C'est un comparatif qui va permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause et qui va inciter les opérateurs à se bouger un petit peu. Maintenant, on peut discuter, effectivement, vous avez une partie du comparatif qui est basée sur des cartes de couverture fournies par les opérateurs. Bon, on peut discuter sur la manière dont on décrète que tel ou tel village est couvert. On a eu des cas de gens qui vous disaient « mais moi j'habite dans ce village, il m'est indiqué comme étant couvert, je capte rien ». Donc il y a des contrôles et ce serait bien que le fait que ce soit couvert, ce soit décrété de manière homogène entre les opérateurs, parce que les consommateurs ont un peu de mal à s'y retrouver.
Michel Combeau, est-ce que c'est une arme, enfin attention au terme qu'on emploie, mais en tout cas un outil extrêmement important que cette carte, effectivement, de l'ARCEP désormais, qui peut pointer du doigt et dire aux opérateurs, regardez, c'est là, c'est pile là.
C'était aussi un exercice de transparence hein, auquel les opérateurs se sont joints il y a déjà de cela plusieurs mois avec, avec l'ARCEP. Hein, comme, ce sont les cartes des opérateurs qui ont été vérifiées et publiées pour l'ensemble des opérateurs par l'autorité. C'est pour nous un outil essentiel qui nous permet de mesurer en fait, le défi collectif auquel nous sommes, auquel nous devons faire face pour pouvoir améliorer, densifier, étendre la couverture mobile sur notre territoire.
Pierre-Jean Mengozzi.
Oui, je pense qu'il faut, ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à présent, mais la question de l'auditeur en faisait état, hein, on raisonnait plutôt en termes je capte ou je capte pas. J'ai quelques barrettes ou j'ai pas de barrettes. Et les cartes dont on disposait jusqu'à présent, c'était du blanc ou du noir. C'est-à-dire c'est, oui, c'est couvert, non, c'est pas couvert. Effectivement, quand une commune, la place de la mairie est couverte, ça veut pas forcément dire que le hameau un peu isolé est couvert lui également. Les cartes qu'on a publiées cette semaine, en fait, visent à être le plus proche possible du ressenti des consommateurs. Et ce qu'on publie, c'est à la fois à l'endroit où vous êtes avec une précision de 50 mètres environ, voilà, si vous allez couvrir très bien, y compris à l'intérieur de la maison. Ou bien, sans doute, très bien dehors, mais à la maison, ça sera peut-être un peu moins sûr. Ou bien, non, il y a très forte chance que vous ne puissiez pas capter dedans, mais dans votre jardin, vous le pourrez. Donc, ou alors pas du tout. Donc, c'est un peu ce raffinement de la mesure qui était extrêmement important et qui correspond à ce que vivent les utilisateurs.
Mais quand on le voit, est-ce qu'on peut faire pression derrière sur les opérateurs ou pas?
Alors nous, notre pari...
La pression, c'est pas votre travail, mais enfin quand même, en creux, c'est ça que ça sert.
Notre pression, on travaille à la fois pour les consommateurs et pour pousser les opérateurs à développer leur réseau, à développer des innovations, à se projeter dans de nouveaux services. Donc notre pari, c'est véritablement, on appelle parfois la régulation par la data, c'est-à-dire le fait de rendre transparent la couverture effective va permettre aux consommateurs de faire jouer la concurrence, de dire c'est pas simplement le prix de mon forfait qui est important, mais à l'endroit où j'habite, sur la route que je prends, à l'endroit où je travaille, c'est cet opérateur qui est le meilleur pour moi. Et en fonction de ça, le pari, c'est que les opérateurs vont se comparer, vont se dire, bah tiens, il faut qu'on arrive à offrir la même couverture partout.
Olivier Guéraud, est-ce que c'est ce qu'on voit dans le comportement des consommateurs aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on choisit plus forcément son opérateur en fonction de son prix, mais on le choisit en fonction de sa couverture et de sa couverture au bas de chez soi, pas seulement de manière générale.
C'est quelque chose qui commence effectivement à rentrer dans les habitudes des consommateurs. Depuis qu'on est arrivé à 4 opérateurs de téléphonie mobile, vous avez une concurrence qui est beaucoup plus forte et vous avez une régression des abonnements avec engagement. Aujourd'hui, on souscrit de moins en moins des abonnements avec engagement, ce qui signifie qu'on peut résilier son forfait en 10 jours. Vous apercevez que la qualité de service n'est pas bonne, vous ne l'avez pas vu au départ, qualité de service n'est pas bonne, vous partez en 10 jours. On a des clients qui sont beaucoup plus mobiles, des clients qui sont beaucoup plus exigeants. Qualité du service, qualité de la couverture et qualité du service client aussi.
Je voudrais qu'on écoute Patricia qui nous appelle depuis Marseille. Bonsoir à vous Patricia.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Alors moi, je voulais vous raconter mon histoire.
Allez-y.
Je viens d'emménager dans un ensemble immobilier flambant neuf, sortant de terre en décembre dernier. Et nous sommes arrivés des centaines et centaines de familles dans cet ensemble. Et je me rends compte que je ne peux pas être jointe ni par mon déménageur qui attend à la porte, vous voyez, ni par qui que ce soit. Et donc, je pose des questions au bailleur. On me dit, c'est la faute d'Orange. Je téléphone à Orange, on me dit, c'est la faute du bailleur. Quoi qu'il en soit, chez moi, dans mon appartement, avec mon téléphone mobile, je ne reçois aucune communication. Il faut que je sorte sur le balcon ou que j'aille sur le trottoir. Et quand sur le balcon, je capte une barrette, je ne bouge surtout pas. Je vous rappelle que j'ai 67 ans. donc j'ai attendu. Orange nous a dit, dans 6 mois, vous aurez un nouveau réseau. Et j'ai attendu 6 mois dans ces conditions terribles. J'ai laissé mes enfants, petits-enfants à Paris. Je devais leur téléphoner, ils m'appelaient aussi. Je le faisais sur le balcon. Et nous avons tous raconté nos vies sur le balcon. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, on voit bien, oui.
Voilà.
Et heureusement, vous habitez Marseille, Patricia, parce que moi, sur le balcon, c'est moins froid.
Arrondissement. Marseille, c'est une immense ville. Le quatrième, c'est dans la ville, c'est pas dans les collines perdues, vous voyez. Donc, et en face, sur le trottoir d'en face de nos logements, il y a le conseil général. je me dis qu'une antenne du conseil général doit quand même pouvoir traverser la rue. Bon, même pas. Et donc, j'attends les promesses d'Orange. Et donc, rien ne vient. On m'a obligé à acheter un téléphone fixe, à avoir une box. Donc, j'ai un abonnement plus cher qu'avec mon portable. Et tout ce que je fais avec mon fixe, je peux le faire chez moi. Et je vous raconte que j'ai 67 ans, que je suis obligée de travailler, et que quand j'avais que mon fixe, que mon portable, je ne pouvais pas avoir les appels de mon employeur.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, merci beaucoup pour votre témoignage Patricia, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus de fixe, par exemple, puisque maintenant les portables sont là. Une réponse peut-être, Michel Combeau, pour Patricia, comment se fait-il qu'en plein centre-ville comme ça, comment c'est possible en plein centre-ville de Marseille, avec le Conseil Général en face, on puisse se retrouver avec un réseau aussi mauvais?
Alors c'est ce qu'on appelle souvent les difficultés des ondes à pénétrer à l'intérieur des bâtiments. C'est un sujet qui est effectivement bien connu de nos ingénieurs. C'est aussi l'enjeu pour nous de densifier et de mettre finalement plus d'antennes à la fois dans les zones rurales, là où il y a absence de services, mais aussi en ville. Le fait de trouver des sites disponibles dans le cadre d'une concertation aussi avec les citoyens. Parfois nous sommes confrontés aussi à des citoyens qui ne souhaitent pas avoir d'antenne à côté de chez eux. Nous ne souhaitons pas effectivement passer en force, pour nous, nous sommes dans la transparence. Pour autant, face à ces cas concrets auxquels nous faisons face, de personnes qui ont des difficultés à recevoir chez eux, parce que parfois les murs sont épais, parce que l'antenne n'est pas visible, nous avons publié sur le site de la Fédération un guide pour permettre effectivement d'améliorer la couverture à l'intérieur des bâtiments. Ce guide est disponible. Il sera amélioré aussi en fonction du retour des usagers. C'est pour nous effectivement un sujet d'importance sur lequel nous investissons.
Mais du coup, si c'est une question de mur chez Patricia par exemple, est-ce que ça veut dire que de toute façon, à part le balcon, elle n'aura jamais d'autre choix?
Non, parce qu'effectivement, les réseaux évoluent. D'une part parce que la demande en débit augmente et donc vous devez mettre plus d'antennes pour faire face à la montée des débits. C'est le doublement annuel, je dirais, des données échangées sur les réseaux mobiles. Donc on doit implanter plus d'antennes. Et aussi, c'est parfois notre difficulté à trouver des sites en ville pour pouvoir densifier ce réseau.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place, en fait. Je dis ça très sérieusement, parce qu'il faut monter un pylône, il faut que tout ça...
C'est souvent, en fait, les opérateurs, pour faire écho à des échanges tout à l'heure, partagent souvent des infrastructures. Il faut parfois négocier avec des bailleurs. Il faut parfois aussi, des nouvelles contraintes, par exemple, celle d'une remise en concurrence. C'est-à-dire que le bailleur peut très bien décider, tel opérateur ne peut plus aller sur le toit, je vais en choisir un autre. Donc c'est aussi cette difficulté concrète à trouver de la place en ville.
Pierre-Jean Mengozzi, vous vouliez intervenir.
Juste un complément. Allez-y. C'est un problème paradoxalement qui devient de plus en plus important parce que les immeubles, ce qu'on appelle à haute qualité environnementale, qui sont à économie d'énergie, en fait, sont aussi des immeubles qui limitent la pénétration des ondes. Donc il y a un vrai souci, y compris d'ailleurs dans des immeubles modernes.
Mais ce qui est parfois une demande des gens, effectivement, qui n'est pas trop d'ondes,
Donc il y a ça, Michel Combeau l'a dit à l'instant, des bailleurs ou des copropriétés qui peuvent refuser d'avoir une antenne sur leur toit. Mais par contre, c'est un enjeu extrêmement important, aussi bien en ville qu'en zone rurale, parce que effectivement, comme l'a dit l'auditrice à l'instant, aujourd'hui on a besoin d'avoir de la communication, il serait-ce que pour commander un objet sur Internet, en e-commerce, la banque qui va renvoyer le SMS avec le code pour pouvoir valider l'achat, si on n'a pas de couverture et si on capte pas, on ne va pas pouvoir faire sa commande.
Et alors justement, tiens, je voudrais qu'on écoute cette question de Philippe. Bonsoir à vous Philippe, bienvenue sur Inter.
Oui. Bonsoir, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Voilà, donc je voulais vous faire part de mon expérience. J'ai une maison dans le sud Morbihan. Alors, c'est une commune qui s'appelle Péaule et c'est un habitat dispersé, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreux petits hameaux autour et ma maison est dans un de ces petits hameaux et là, on reçoit rien du tout. Vraiment, aucune barre sur mon portable. Alors, après avoir contacté mon opérateur, il s'agit d'Orange, ils m'ont conseillé d'installer sur ma Livebox un femtocell, c'est un appareil amplificateur de signal. Ce que j'ai fait, mais ce que je trouve, alors d'abord c'est une solution qui n'est pas satisfaisante parce que il serait naturel que l'on reçoive sans cet appareil les signaux, mais il se trouve qu'on vous vend cet appareil.
Bah oui.
Ça coûte de mémoire une cinquantaine d'euros, mais c'est scandaleux parce que c'est l'opérateur qui est défaillant. Et en plus, il fait une recette en vous vendant un appareil pour remplacer finalement ce qu'il devrait faire à notre place. Donc, voilà, je voulais signaler cette situation. Et dans cette région, un habitat dispersé, des petits hameaux de 4 ou 5 maisons, la plupart d'entre eux ne reçoivent pas les appels des téléphones portables.
Voilà. Merci de votre appel, Philippe. Olivier Guéraud, vous qui êtes juriste à l'association de consommation logement, il a raison.
Ah bon, je partage Philippe. Totalement l'avis de cette... auditeur, vous avez un
opérateur... Pas de réseau, la boîte gratuite, non ?
À qui vous avez communiqué votre adresse, qui vous a pas forcément alerté sur le fait que le réseau était pas bon. Cet auditeur, il se trouve qu'il a un abonnement Internet chez ce même opérateur. Ça pourrait être gratuit, effectivement, oui.
Michel Combeau, on peut imaginer quelque chose de, j'allais dire, à la carte, en fonction de l'état du réseau, en fait, après tout.
Alors, je vais pas commenter la pratique d'un opérateur, simplement vous indiquer dans la fiche, en tout cas dans les fiches que nous publions, c'est qu'il y a d'autres aussi solutions, par exemple celle de connecter directement le smartphone sur sa box pour pouvoir faire un appel. On est là aussi dans un défi qui est plus large, qui est celle effectivement de l'amélioration de la couverture, notamment dans ces habitats dispersés. Alors le président de la République a fixé un objectif, nous y avons souscrit publiquement.
C'était pour 2020, non ? C'était pas ça
c'est effectivement, ouais. C'est l'accès à tous les Français au très haut débit fixe mobile pour la fin de l'année 2022.
À 22,
et
pardon.
Un bon débit, sans savoir vraiment ce que c'est, pour l'année 2020. Il nous faut pour ça repenser un peu le logiciel des fréquences. Enfin, on cite un chiffre, c'est le chiffre de l'industrie, c'est un milliard d'euros chaque année qui va dans les redevances budgétaires et dans la taxe sur les investissements. Pour nous, ce milliard d'euros doit être réinvesti dans les territoires, justement pour permettre effectivement une meilleure couverture de services.
Je vous ai vu réagir, Olivier Guéraud, quand on parlait de se brancher sur la box, en quelque sorte.
Oui,
en
parce que, n'oublions pas que tout le monde ne va pas sur Internet. Vous pouvez avoir un téléphone mobile et ne pas aller sur Internet. Tout le monde n'a pas forcément une box. Et le fait de connecter à la box, c'est une solution de secours. Il est dommage que souvent ce soit facturé, quoi.
Vous vouliez intervenir, Pierre-Jean Bengozy, je vous ai vu réagir.
Oui, pour rebondir, parce qu'effectivement, on est dans une conjonction de planètes où ces questions de couverture et l'outil qu'on a publié en témoignent. Fait qu'aujourd'hui, tout le monde est vraiment convaincu de cette importance de la couverture, aussi bien en zone rurale qu'à l'intérieur des appartements, et que donc les opérateurs, en tout cas, se sont déclarés prêts à faire des investissements et prêts à accélérer la couverture et jusqu'à 100% du territoire.
Mais on sera prêt à cette échéance-là, alors, 2020 d'abord, 2022.
Je pense qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités qui est que ça rentrait trop dans la technique pour faire du mobile. On a besoin de fréquences, de différents types de fréquences. L'ARCEP organise justement ses attributions de fréquences. Donc nous, les propositions qu'on a fait, c'est, le gouvernement était aussi sur cette ligne-là, on est en discussion avec lui, c'est d'anticiper le renouvellement des fréquences pour pouvoir coupler ça avec un engagement des opérateurs. Après, c'est un arbitrage à faire entre les recettes liées à l'utilisation de ces fréquences et les engagements que vont faire les opérateurs pour couvrir rapidement l'ensemble du territoire, mais à la limite c'est une négociation, mais je pense que tout le monde est aujourd'hui très très convaincu de cette nécessité absolue de résoudre cette fracture territoriale.
Vincent, vous êtes encore dans la fracture territoriale, comme on vient de le dire à l'instant, vous êtes dans une zone blanche, vous êtes où, Vincent ?
Oui, bonsoir, moi je suis à 25 km à l'est d'Orléans.
D'accord.
Je me reconnais un petit peu dans le témoignage de Philippe, sauf que j'ai également comme lui une femme tout seule. Sauf que moi, je suis à 5 km du concentrateur, ou je sais pas comment ça s'appelle, qui permet d'envoyer les signaux ADSL et télécom, et comme c'est loin, c'est souvent en panne, ça décroche, et donc là je n'ai plus ni téléphone portable, puisque ça passe par la FM tout seul, ni téléphone fixe, ni internet. Donc j'ai vraiment le sentiment d'être un sous-citoyen. La fracture numérique, elle existe vraiment.
Oh, qui est parfois corollaire à la fracture sociale. Le lapsus était révélateur.
Oui, non, c'est pas forcément. Mais c'est très difficile à vivre. Je voulais dire juste une chose, c'est que on est confronté à la vétusté des équipements en zone rurale. Je pense que les quatre opérateurs, quels qu'ils soient, d'abord, on peut les choisir à condition d'avoir le choix. Ici, on n'a pas le choix. J'ai aucun opérateur qui me couvre. Le seul opérateur, la seule connexion que j'ai, c'est par la FM tout seul et par la DSL qui marche très très mal. Et je pense que comme les sociétés qui, les fournisseurs d'accès sont des sociétés maintenant privées, elles ont un but de gagner de l'argent. Si on ne les contraint pas à équiper les zones extrêmement peuplées. Elles n'ont aucun intérêt à le faire parce que avec des travaux moins coûteux pour elles, elles ont un retour sur investissement beaucoup plus rapide en zone fortement peuplée qu'à la campagne.
On a bien.
Je peux vous assurer que c'est un vrai problème. J'habite à proximité d'une forêt. Si un feu se déclare dans la forêt, je n'ai quelquefois aucun moyen de prévenir, puisque je n'ai plus du tout de réseau, que ce soit filaire ou GSM.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Vincent, il y a deux choses qui sont intéressantes, Pierre-Jean Bengozy, mais je vous poserai la question à vous aussi, Michel Combon, dans ce que vient de dire Vincent. D'abord, effectivement, la concurrence, c'est bien. Pouvoir choisir celui qui couvre mieux, c'est bien. Sauf qu'on n'a pas toujours le choix de son opérateur dans la zone où on est. Et ça change tout, non? Dans un cas comme Vincent, par exemple, c'est typiquement ça.
Oui, ça change tout. La double peine, d'ailleurs, elle ne concerne pas que les territoires ruraux extrêmement isolés. Je vais prendre un exemple très direct. J'habite à 50 km de Paris. J'ai un ADSL qui fonctionne très très mal. Mon voisin est obligé de monter au bout de la route pour téléphoner avec son mobile. Je le croise régulièrement. Donc c'est et bien entendu, je ne fais pas jouer la position.
Les cordonniers sont donc vraiment les plus mal chaussés.
Non, mais donc c'est simplement, c'est quelque chose que je vis totalement au quotidien. Je pense que c'est alors les opérateurs ont des obligations. Je pense qu'il y a donc on est conscient des grandes difficultés, mais je pense qu'il faut dire par exemple.
Des obligations ou contraintes, pardonnez-moi de vous interrompre.
C'est des obligations qui deviennent des contraintes. C'est-à-dire par exemple sur la 4G, quand on a attribué les fréquences pour la 4G, il y avait des obligations de couverture du territoire à différentes échéances, 2017 et 2019, etc. Et donc si les opérateurs ne respectent pas leurs obligations, ils sont sanctionnés. On a sanctionné l'an dernier des opérateurs d'entre eux pour ne pas avoir couvert justement des zones blanches, des habitats isolés. Donc ça existe. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que c'est des opérateurs, c'est des acteurs économiques privés, mais en même temps la concurrence est efficace. Sur la 4G par exemple, les opérateurs, du fait de la concurrence, ont été beaucoup plus rapidement que les obligations qu'ils avaient. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils ont été capables d'accélérer et d'être bien en avance par rapport à ces objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment qu'en rendant visible ces lacunes dans les couvertures, ces difficultés des territoires, progressivement, ça va devenir insupportable et que les opérateurs vont être obligés d'avancer et de le faire. Et l'expérience, de la 4G montre que ça marche.
Michel Combeau, vous pour la Fédération Française des Télécoms, qu'est-ce qu'on peut répondre à Vincent, à la fois sur son non-choix sûrement, mais surtout sur son idée de, à un moment, il faut peut-être contraindre plus fort parce que ça fera venir les progrès beaucoup plus rapidement.
Alors je veux quand même rappeler que notre industrie n'a pas à rougir de ce qu'elle fait. C'est quand même près de 9 milliards d'euros par an d'investissement dans les réseaux et dans les réseaux en France, dont notamment 3 milliards d'euros par an dans les réseaux mobiles. Ce sont des prix qui ont été en baisse depuis 5 ans de 20%. Aucune industrie a vu effectivement ses prix baisser de telle manière et des investissements qui augmentent. Alors effectivement.
Après, pour ceux qui sont dans les fameux 3000 sites notamment.
Voilà, donc ça, c'est effectivement déjà. Les opérateurs, comme le disait Pierre-Jean Bengozy, respectent leurs obligations. Et on a conscience, parce que la Fédération, ses membres, nous faisons souvent des rencontres sur le terrain, dans les territoires, notamment les moins bien desservis, ceux où il y a double peine, avec les élus et les citoyens. Nous mesurons cette impatience, en fait, qui va bien au-delà, en fait, des obligations auxquelles nous sommes assujettis. Nous sommes prêts, nous, en tout cas, à faire plus d'investissements, à prendre plus d'obligations, nous l'avons dit au gouvernement. Au gouvernement, maintenant, à l'État, de repenser le logiciel, et que cet argent qui est soutiré aux opérateurs pour combler le déficit de l'État et en taxe.
Soutirer aux opérateurs.
Et qu'il soit remis dans les investissements, c'est notre proposition. Et nous verrons après ce que l'État va arbitrer.
Olivier Guéroux, un mot quand même. On soutire de l'argent aux opérateurs, c'est de l'extorsion pour que les choses se passent.
Sur ça, vous me permettrez de ne pas me prononcer. Moi, je vois tout simplement les abonnements que les consommateurs payent. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ils ont peut-être été revus un peu à la baisse, mais enfin, c'est surtout dû au fait qu'aujourd'hui, le remboursement du mobile n'est plus vraiment inclus dans ce qu'on paye chaque mois. Donc, vous avez des consommateurs qui payent des abonnements d'une vingtaine d'euros par mois, et ce qu'on entend ce soir n'est pas très joyeux. C'est vrai que vous payez le même prix pour un service qui n'est pas rendu. Il y a manifestement une urgence pour beaucoup de ces personnes-là.
On va écouter Laure dans un instant. Pierre-Jean Bengozy, je vous écoute d'abord. Pardon.
Les opérateurs font des efforts, je vous disais tout à l'heure, sur la 4G ça avance. il ne faut pas se glorifier de la situation actuelle. Je pense qu'il faut en être très conscient. Hein. Au niveau européen, la France est 24e sur 28 en termes de couverture 4G. Donc, malgré tous les efforts, on est quand même très largement à la traîne. Alors, pour des raisons, on pourrait rentrer dans les explications, mais effectivement, on est très en retard.
Bah, allons-y, pourquoi on est si en retard, rapidement? Allez-y, Michel Combeau.
Moi, je peux vous donner quelques chiffres, parce qu'on nous dit, voilà, on fait moins bien que les autres pays européens. Je pense qu'ici, il faut ramener juste quelques chiffres. La densité de population en France, elle est de 120 habitants au kilomètre carré. Si on prend des pays comme le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Allemagne, c'est plus de 230 habitants au kilomètre carré. La France est le premier pays, je dirais, touristique au monde. C'est un pays aussi qui change énormément. Et c'est à peu près la taille, on avait un chiffre en tête, c'est un département tous les 7 ans qui disparaît en termes de surface agricole, qui partent notamment en nouvelles zones urbaines. Donc c'est un pays qui change, cette demande change, évolue, et effectivement c'est un défi auquel on est confronté. Donc les comparaisons, voilà, ont effectivement leurs limites.
Alors il y a un autre défi, on l'a déjà un peu évoqué, mais je voudrais vraiment qu'on entende le témoignage de Laure. Bonsoir Laure.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute.
Voilà, moi je viens apporter un témoignage un peu différent. J'habite dans une commune provençale qui est magnifique, dans un endroit classé, dans un parc régional, dans la montagne. Et le maire, avec l'appui du sous-préfet, veut absolument installer une antenne sur la commune dont les trois quarts des habitants ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas être, je dirais, parasités par les ondes, et puis parce que surtout, sur le plan visuel, nous avons peur que ça défigure complètement le coin. Et ça sera visible de partout, et on nous propose une antenne de 30 mètres. Qui est un mètre en contrebas du village, 30 mètres. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on veut s'opposer, ça a été voté maintenant, donc je ne sais pas si on peut revenir en arrière, et est-ce qu'il y a moyen d'avoir une antenne de 30 mètres qui s'intègre dans un paysage provençal?
On va tâcher de vous répondre. Alors j'ai juste une question, vous captez bien sur votre portable sinon ou pas?
C'est pas génial, mais on n'est pas non plus, on est à 7-8 km de la ville. Enfin bon, ça dépend où on est. Moi, de chez moi, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est pas génial, je reconnais. Mais à quel prix? Vraiment au prix de quelque chose de très très laid, il me semble.
Et c'est une vraie question, hein, ceci dit, qu'on voit revenir régulièrement là dans les questions au 01 45 24 7000. Mais aussi, ce sont des arguments qu'on entend, effectivement. C'est pas seulement faire venir le pylône, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Est-ce que c'est des choses auxquelles on est souvent confronté, Michel Combeau?
Oui, effectivement, nous on a, je dirais, beaucoup d'anecdotes. Par exemple, c'était un village dans l'Oise qui était en zone blanche, pas très loin de Rotonde en fait, où il a fallu près de 10 ans pour installer la pylône, et les habitants n'avaient rien du tout, pas de 2G, pas de 3G, pas de 4G. Ce sont des exemples comme ça auxquels nous sommes confrontés, et c'est l'équilibre à trouver entre la réception, l'amélioration de la couverture, et parfois le fait que pour améliorer la couverture, il faille une antenne. Alors on a effectivement un certain nombre de dispositifs pour intégrer ce qu'on appelle l'intégration paysagère, pour rendre plus discret l'antenne. Mais parfois, les gens nous accusent de dissimuler l'antenne. Et donc, cet équilibre, et ça se fait en toute transparence, hein, comme Laure vient de l'indiquer, il y a eu un débat avec les habitants. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, nous passer en force. Il faut que les habitants acceptent, en tout cas, cette intégration. Des dispositifs existent et nous sommes, en tout cas, partie prenante à cette concertation.
Olivier Guéraud, je ne veux pas vous piéger, le juriste que vous êtes va aussi passer des cas comme cela ou pas?
Oui, il y a beaucoup de questions, effectivement, quand on installe une antenne. Après, c'est compliqué de vouloir recevoir la téléphonie sans permettre l'installation d'une antenne. Mais ce qu'on a pu regretter dans le passé, c'était une absence de dialogue entre les opérateurs et la population qui était concerné. Clairement, il faut à un moment installer une antenne. J'avoue, je suis assez surpris par le fait que l'antenne fasse nécessairement 30 mètres.
Alors, j'allais vous poser la question, pardon, hein, c'est une question très naïve, moi j'y connais rien. Est-ce qu'elles doivent forcément faire 30 mètres de haut, ces antennes, ou pas?
Et là,
Michel Combeau, non mais pardon, je vais le dire comme ça, il y a plusieurs tailles, en fonction de l'endroit, en fonction du lieu, en fonction de...
Je dirais, en fait, c'est pas l'antenne fait à peu près la taille, fait la même taille, c'est l'endroit où on l'installe. Ça peut être sur un pylône, ça peut être sur un château d'eau, ça peut être sur un mât de petite hauteur. Après, il faut arriver à couvrir. Et donc, si effectivement, vous avez, surtout dans des villages qui sont un petit peu, soit un peu vallonnés, soit étendus, il faut pouvoir couvrir. Donc, on a effectivement, je dirais... en catalogue toutes les tailles de pylônes. Il faut aussi dire, plus le pylône est petit, moins la couverture est grande. Donc si notamment on a un bâtiment qui est un peu éloigné du centre-bourg, si on met un pylône trop petit, il ne sera pas couvert.
Et on a compris effectivement que c'était finalement beaucoup beaucoup moins simple que ça en a l'air, Pierre-Jean Bengozy. Des cas comme celui-là, effectivement. Et il n'y a pas que la taille, il y a aussi la dangerosité des ondes ou pas. Il y a toutes ces choses qui commencent à tourner beaucoup et qu'on entend énormément.
Non, tout à fait.
Et puis il y a les électrosensibles qui sont des vrais électrosensibles.
Complètement. Alors, sur les électrosensibles, je pense que le... j'incite tout un chacun à aller voir sur le site monreseaumobile.fr, parce que justement, ces cartes de couverture, elles permettent aussi aux électrosensibles ou aux personnes qui sont particulièrement sensibles justement aux zones d'émission, d'aller identifier éventuellement les territoires ou les zones dans des villages ou dans des bourgs dans lesquelles les couvertures sont le moindre. Cela étant, au niveau du régulateur, pour nous, c'est aux élus locaux de dire quelle est leur priorité entre la couverture, l'émission, l'éviter des émissions pour protéger la population. C'est un choix des élus locaux.
Une question de Jean-François sur France Inter au 01 45 24 7000. On vous écoute, Jean-François.
Oui, bonsoir. Pardon, merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
Est-ce que il n'y a pas un problème par rapport aussi à trop de libéralisme? Quand on a ouvert à la concurrence électricité, on a créé ATE qui gère le réseau. Est-ce que à l'ouverture de la concurrence de France Télécom, on n'aurait pas pu créer un opérateur public qui aurait géré le maillage du territoire et ensuite des opérateurs privés qui intervenaient sur les antennes qui les intéressaient, mais on séparait bien les deux, ce qui évitait d'un côté d'avoir des zones blanches et de l'autre côté d'avoir quatre antennes montées une sur l'autre de quatre opérateurs différents.
Merci pour votre question, Jean-François. Ça aurait été possible, ça, théoriquement, on va dire, juste dans la théorie, Michel Combeau, est-ce que ça aurait du sens ou pas?
Sans faire, je dirais, ici et ce soir, un traité sur l'histoire des télécoms, c'est le choix qui a été fait il y a presque maintenant 20 ans, même plus de 20 ans par le gouvernement, c'est d'attribuer différentes licences à différents opérateurs. Alors l'État y a trouvé son compte, hein, comme on le rappelait, parce que à chaque opérateur, il y a des taxes effectivement et des redevances. Donc ça lui a permis effectivement de valoriser son patrimoine. Hein, mm-hmm. C'est un patrimoine de fréquence qui appartient à l'État ou à la personne publique. Il l'a valorisé en faisant effectivement quatre réseaux. Pour autant, je dirais les opérateurs partagent un certain nombre, je dirais, d'infrastructures. Je dirais la concurrence aussi a permis, par exemple, hein, de développer les services et notamment d'aboutir à la situation où vous avez des forfaits de 4G avec beaucoup de débit. On en voit effectivement, je dirais maintenant, le défi, en tout cas, je dirais ce qu'il reste à faire pour améliorer la couverture. En tout cas, nous sommes partants pour l'améliorer. La situation est là, à nous, effectivement, collectivement, de tout faire pour améliorer la couverture.
Marine, vous êtes une grande voyageuse et ça vous inspire une question. Bonsoir à vous. Marine.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, c'était parce que je reviens d'un voyage d'un an et demi où j'ai traversé la Mongolie, la Chine, l'Inde, et partout ça passe. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que c'est une question d'intensité d'antenne? Parce qu'on ne peut pas dire qu'en Inde, c'est un problème de surcharge de réseau, parce que tout le monde a un portable, en Chine aussi, donc tout est saturé et ça passe super bien partout.
Et y compris au fin fond de la Mongolie, alors, Marine?
Au fin
Marine.
Fond de la Mongolie, oui, j'étais à 70 bornes d'une ville, sous une yourte, et j'avais la 4G.
Eh ben, si on a la 4G sous une yourte, qu'est-ce qu'on fait, nous, en France? Mais ceci dit, c'est une vraie question, Pierre-Jean Bengozy. On se rend compte, parfois, en voyageant, qu'il y a des endroits qui ont l'air assez désertiques et, qui passent plutôt très bien, alors que chez nous, c'est plus compliqué. La question de Marine derrière, c'est quoi? C'est le réseau, l'antenne, la puissance?
On l'a dit tout à l'heure, la France, effectivement, est pas forcément dans la meilleure placée dans l'ensemble des classements internationaux, que ce soit au niveau européen ou international. Après, je pense que c'est des choix aussi historiques qui sont faits par les différents pays. Hein. Il y a un effet de saute-mouton, c'est-à-dire que les pays qui investissent beaucoup dans une technologie à un moment donné sont éventuellement un peu plus faibles dans la suivante. Donc déjà, on peut avoir cet aspect-là. Il y a l'autre aspect aussi, c'est
des pays qui ont sauté le fixe.
Il y a notamment, je pense, que la Mongolie, mais on pourrait aussi parler d'un certain nombre de pays africains. C'est le mobile qui est le seul moyen de connectivité. C'est aussi parfois des géographies qui s'y prêtent davantage. Hein. Quand on est dans des steppes, les antennes vont couvrir bien plus que quand on est dans des zones de montagne, par exemple. Alors, c'est pas du tout pour exonérer les opérateurs ou les efforts qu'on peut faire en France, mais il y a des raisons géographiques qui peuvent aussi expliquer cette situation.
On a évoqué un petit peu les électrosensibles à l'instant. Je voudrais qu'on écoute Brigitte. Bonsoir à vous, Brigitte.
Bonsoir.
Et on vous écoute.
Alors, moi, j'habite dans la Loire, du côté de Saint-Galmier. Les communications en portable sont pas très très bonnes, mais c'est pas pour ça que j'appelle. C'est simplement que j'ai plusieurs amis qui sont électrosensibles et qui ont une grande difficulté à trouver des endroits où se reposer, où ils puissent ne pas avoir mal à la tête, avoir des étourdissements, mal aux oreilles. Voilà. Alors, je connais particulièrement l'une des personnes qui travaille à Valence, qui ne peut travailler qu'à mi-temps. Elle habite dans la Drôme, dans l'Ardèche. Oui. Et elle a eu beaucoup de mal. Enfin, voilà, elle est toujours en train de chercher des endroits où elle peut passer une nuit dans sa tente. C'est ce qu'elle fait quand elle vient dans mon coin.
L'Ardèche, qui est un endroit, pardon de vous couper Brigitte, qui est un endroit où on trouve beaucoup d'électrosensibles, parce que c'est là qu'ils viennent se réfugier, j'allais dire, entre guillemets. Pardon Brigitte, parce qu'il nous reste un peu moins d'une minute. Moi, je voudrais poser la question à nos invités quand même. Michel Combeau, est-ce qu'on se dit des fois, il faudra garder des zones blanches pour ces gens? Parce qu'on prend au sérieux aujourd'hui les électrosensibles. Est-ce qu'on le dit vraiment?
Pour nous, c'est un débat qui est effectivement sensible, qui est important. Et c'est un débat qui doit être fait au niveau local. Par exemple, l'Ardèche, comme vous le citiez, c'est l'un des départements où il y a le plus de zones blanches, près de 150 zones blanches, en fait, dans le département. Au niveau local, au niveau du département, au niveau des mairies, de savoir quelle est la priorité. Est-ce qu'on souhaite de la couverture? Est-ce qu'on souhaite de l'absence de couverture? Finalement, ce n'est pas aux opérateurs de décider là où la couverture est demandée.
Et c'est le mot de la fin du téléphone sonne. Merci à tous d'y avoir participé.